On va faire un nouveau point sur la situation en Ukraine et les enjeux qui sont en train de se dessiner avec nos deux invités. Isabelle Lasserre, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en charge du service international au Figaro, ancienne correspondante à Moscou. Et en ligne, le général de division Vincent Desportes, ancien directeur de l'école de guerre, professeur de stratégie à Sciences Po et à HEC. Bonjour à tous les deux. Général, on commence avec vous. Quand la Russie annonce un élargissement de l'offensive sur l'Ukraine, est-ce qu'on entre bien dans cette guerre totale qu'évoquait Joe Biden il y a quelques jours ?
On est très loin d'une guerre totale. Une guerre totale s'entend une guerre nucléaire. Donc on est heureusement très loin de là. Mais on est clairement dans une deuxième phase de la guerre. À mon sens, et bien sûr c'est une interprétation, le plan initial de M. Poutine a échoué. Le plan initial était de décapiter par effet surprise, qui a surpris effectivement le monde entier et l'Ukraine, décapiter le pays, faire tomber le pays par un coup psychologique qui était cette attaque massive, enfin, importante plutôt, de jeudi matin. À mon sens, le plan A des Russes a 48 heures de retard. Ils n'ont pas réussi à faire tomber Kiev et donc ils se lancent dans un plan B qui est de conforter leurs attaques par l'Est et par le Sud de manière à encercler Kiev et à faire tomber Kiev comme un frimur. Sachant que s'ils avaient voulu faire tomber Kiev par une attaque conventionnelle, ils auraient déjà lancé une attaque comme ils ont lancé cette nuit une attaque contre Kharkov. Donc ça n'était pas impossible, mais je pense que M. Poutine hésite encore à conduire à l'intérieur même de la capitale ukrainienne les destructions qu'entraînerait forcément une telle attaque massive.
Isabelle Lasserre, l'élargissement du conflit, ça annonce des bombardements plus intensifs, une façon de faire comprendre aussi qu'il y aura encore plus de victimes civiles.
Oui, alors moi je suis très inquiète parce que j'ai couvert la guerre de Grozny, de Tchétchénie à Grozny. Et aujourd'hui, il y a deux choses qui me font penser que Poutine peut peut-être se diriger vers un scénario à la Grozny, quand il élargit, c'est-à-dire que, comme la première phase, comme l'a bien rappelé le général Desportes, n'a pas fonctionné, il veut aller très vite, Vladimir Poutine, parce que cette guerre se passe sous les yeux du monde entier et il va pas pouvoir tenir un mois comme ça. Donc accentuer les bombardements.
Pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas tenir un mois comme ça ?
Bah parce que pour la première fois, il y a des réactions internationales qui sont de plus en plus vives.
Est-ce que ça l'impressionne, Vladimir Poutine, ces réactions internationales ?
Bah, ça l'impressionne pas, mais en même temps, ça risque de le gêner. La campagne de Grozny s'était déroulée dans un espèce de, non pas de huis clos, mais c'est vrai que c'était très loin pour les puissances occidentales et qu'on l'a laissé quand même agir et détruire, raser complètement la ville. La Crimée, il y a eu des cris, des protestations, des tentatives de médiation, et puis au bout de 5 jours, tout ça a été complètement terminé. Là, c'est vraiment très différent. Là, c'est vraiment un pays qui s'en prend à son voisin qui clame son appartenance européenne. Tout ça, c'est au cœur de l'Europe, et c'est vrai que les réactions sont de plus en plus vives pour Vladimir Poutine. Ça risque à terme de le gêner, parce que son pays risque d'être complètement isolé économiquement, complètement isolé politiquement, et les répercussions risquent d'être à moyen terme politiques chez lui. C'est-à-dire qu'on voit déjà certains journaux, y compris des journaux proches du pouvoir, ont des bandeaux noirs qui demandent la fin de la guerre, déjà, au de 3 jours.
Et je précise qu'en ce moment, des combats de rue entre les forces ukrainiennes et l'armée russe sont en cours ce matin à Kharkiv, dans le nord-est. Hein. Kharkiv, c'est la deuxième ville d'Ukraine. Général Desportes, cette résistance ukrainienne, vous l'évoquiez un peu, Vladimir Poutine l'aurait sous-estimée alors qu'on parlait auparavant, il y a quelques jours, de blitzkrieg éventuel.
Absolument. Moi, je pense qu'il a commis la plus grande erreur que d'autres ont commis. Les Américains l'ont fait avec les Irakiens, ils l'ont fait avec les Vietnamiens, etc. Il a commis la pire erreur stratégique qui puisse exister, c'est-à-dire mépriser l'autre et le prendre, ne pas penser qu'il est suffisamment intelligent pour se défendre et qu'il a des intérêts qui sont vitaux pour lui et qu'il va défendre. C'est-à-dire comme les Américains l'avaient fait au Vietnam, d'ailleurs ne pas mesurer ce que l'autre est prêt à payer pour défendre ses propres intérêts. Et les intérêts ukrainiens, Isabelle Lasserre l'a rappelé, c'est au cœur de l'Europe. C'est des intérêts de liberté, c'est des intérêts de vie nouvelle, etc. Et je pense que le peuple ukrainien va effectivement se battre. Comme le disait Isabelle Lasserre, tout est un problème de temps aujourd'hui. Le temps joue contre le président Poutine. Ce qui, hélas, risque d'entraîner à très court terme un accroissement, une accélération de la violence, parce qu'il doit gagner très vite. Le problème, c'est que le coût de la guerre augmente à chaque minute pour lui, et il y a un prix qu'il ne peut pas payer, un prix de politique intérieure, et je dirais un prix de politique internationale. Donc, il faut que tout cela s'arrête, évidemment, très vite, et donc il va accélérer.
Isabelle Lasserre, l'une des images fortes hier, c'est cet immeuble civil éventré par un missile. Or, Vladimir Poutine veut cacher les images des morts dans les médias russes. Que sait-on de la popularité, enfin plutôt de l'impopularité de cette guerre dans l'opinion russe?
C'est trop tôt pour le dire, mais là encore, je vais faire un parallèle avec Grozny, parce que à l'époque de Grozny, quand on parlait à certains jeunes soldats russes, ils ne savaient pas où ils étaient emmenés, en tout cas pendant la deuxième guerre de Tchétchénie. Ils étaient complètement paumés et ils ne savaient pas qu'ils allaient combattre en Tchétchénie. Et ben là, c'est pareil, on voit des soldats complètement paumés, qui savent pas très bien contre qui ils se battent. Voilà. Par contre, ça va être très très compliqué. Cette guerre risque d'être très rapidement impopulaire en Russie, pour une simple raison, c'est que Vladimir Poutine clame haut et fort depuis très longtemps que l'Ukraine, c'est le même peuple que la Russie, qu'il n'y a pas de peuple ukrainien, que l'Ukraine fait partie de la Russie. Donc aujourd'hui, il envoie son armée se battre contre des frères, contre le même peuple. Et ça va être très compliqué, parce que quand il s'agit de combattre des Tchétchènes, musulmans, les Russes ne s'identifient pas aux Tchétchènes. Mais là, c'est les mêmes, c'est exactement les mêmes. C'est le peuple frère. Et ça va pas passer en Russie.
Sur les Tchétchènes, 10 000 hommes de troupes tchétchènes vont arriver en soutien aux troupes russes. Les Tchétchènes, c'est quoi? C'est faire référence à la terreur, une certaine forme de violence?
Absolument. Alors, l'annonce d'une nouvelle phase dans la guerre et d'une accélération de la guerre, c'est la première guerre de Tchétchénie, c'est-à-dire destruction et aller le plus vite possible. Bon, à l'époque, c'était en rasant une ville. Je pense pas qu'il en arrive là, à Kiev, mais c'est l'intensification des bombardements et de la violence. Et l'appel au bataillon tchétchène signifie deux choses. C'est que peut-être qu'il n'a pas assez de troupes pour faire le job correctement dans son armée. Et en même temps, ça, c'est le symbole de la répression. C'est-à-dire que ce sont des bataillons paramilitaires, sans foi ni loi, qui se sont illustrés pendant la deuxième guerre de Tchétchénie par des tortures. Donc c'est terrible. C'est un mauvais signe.
Général Desportes, faire appel aux Tchétchènes, c'est donc aussi un premier aveu d'échec des troupes russes?
Ah, je pense, oui. Je pense, on voit bien que là, M. Poutine est acculé. Il a raté son pari immédiat, et donc il va aller chercher au fond de ses possibilités pour gagner. Et ce que dit Isabelle Lasserre est vrai. L'armée russe est une armée de soldats dont Marianne disait récemment, enfin, qu'ils vivaient dans des conditions, enfin, que ces soldats appelés vivaient des choses terribles même dans leur simple service militaire. Et donc, je ne suis pas sûr que ces gens-là sont en train de combattre leurs frères, hein, puisqu'effectivement, Poutine disait que c'était leur frère. Donc, c'est slave contre slave. Et ces gens-là, peut-être assez rapidement, vont simplement manquer d'ardeur au combat. On ne combat pas un ennemi, on combat ses frères, c'est quand même assez différent.
Et puis on apprend ce matin qu'une délégation russe est arrivée en Biélorussie pour des discussions avec l'Ukraine, c'est ce que dit un porte-parole du Kremlin. Il faut être clair quand même, hein, peut-être Isabelle Lasserre, pour Vladimir Poutine, discuter, ce ne serait pas autre chose que d'une reddition de l'Ukraine.
Ah bah, discuter, c'est obtenir une reddition de l'Ukraine. Donc toute cette pseudo-activité diplomatique, si vous me permettez l'expression, est totalement risible. En fait, Vladimir Poutine, comme d'ailleurs de nombreux responsables d'Europe occidentale ont complètement sous-estimé une chose, la force du nationalisme ukrainien. La volonté ukrainienne de se battre pour la liberté, la volonté ukrainienne de se rapprocher de l'Europe. Et ça, Vladimir Poutine ne l'a pas vu, n'a pas compris. L'Ukraine, en fait, est perdue parce que l'Ukraine de 2022, pour Vladimir Poutine, je veux dire, l'Ukraine de 2022 n'est pas du tout l'Ukraine du début des années 2000. Elle s'est installée dans la démocratie, elle fait partie de l'Europe, elle aime les valeurs européennes.
Mais elle n'est pas pour autant pour l'OTAN et c'est pas demain qu'elle l'y sera.
Alors ça, on peut pas préjuger de la suite de l'histoire, mais ça fait très très longtemps. L'OTAN est un prétexte. Depuis 2008, la porte avait été entrouverte et en même temps à moitié fermée, puisqu'il n'y avait absolument aucun calendrier. Et personne aujourd'hui dans le camp occidental ne voulait que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. C'était d'ailleurs le grand désarroi du gouvernement ukrainien. Donc ça, c'est un prétexte de Vladimir Poutine.
Général Desportes, Emmanuel Macron redoute désormais une extension du conflit en Moldavie, en Géorgie. D'ailleurs, il a appelé hier ses homologues dans ces deux pays pour les assurer de son soutien. L'extension du conflit, hypothèse crédible, plausible en tout cas.
Hypothèse possible. Alors, laissons quand même les choses se faire en Ukraine. Bon, mais si effectivement Poutine arrive assez rapidement à son objectif en Ukraine, pourquoi pas? Parce que la Moldavie avec les guerres gelées, de la Transnistrie, on est dans une situation qui est assez semblable à celle du Donbass et de l'Ukraine, et puis avec l'Abkhazie et puis l'Ossétie du Sud, dans lequel, là je parle de la Géorgie, dans lequel on trouve effectivement des troupes russes, on est dans des situations assez semblables. Ni l'un ni l'autre de ces pays ne sont protégés par l'OTAN, et donc on est dans un cas de figure qui est semblable. Et si l'élan est suffisamment grand, si ça fonctionne, pourquoi pas? C'est une occasion unique pour Poutine de continuer. C'est bien pour cela qu'il faut être ferme, et c'est bien pour cela qu'il faut que l'Ukraine ne tombe pas, et c'est bien pour cela qu'il est bon que l'Occident, cette fois-ci, enfin et pour une fois, fasse corps pour faire payer le prix fort à la folie, la folie de Poutine au prix fort.
Toujours sur l'extension possible de ce conflit, dans Ouest-France, ce matin, le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki craint désormais une attaque russe contre l'Est de l'Europe. Selon lui, le prochain objectif du président russe, ça pourrait être les Pays-Baltes, la Pologne, la Finlande ou d'autres pays du flanc Est. Est-ce que ce risque est réel, selon vous, Isabelle Lasserre?
Oui, je pense qu'il est réel. Alors, il fera pas tout en même temps, mais enfin, la volonté de Vladimir Poutine de récupérer le contrôle non seulement de toutes les anciennes républiques d'Union soviétique, mais aussi de certains des satellites, a été exposé clairement par lui-même. Donc, il y a plusieurs pays qui sont menacés. Alors, c'est la Moldavie, c'est la Géorgie, les Pays-Baltes et peut-être la Pologne. Enfin, là, c'est quand même dans un second temps.
Hein. Bien sûr. Mais il y a aussi tous ces conflits mal éteints, ou en tout cas non résolus définitivement. Je parle des séparatismes du côté de la Bosnie, entre le Kosovo et la Serbie. Est-ce que ça peut être désormais autant de nouvelles menaces pour la paix en Europe?
Oui, parce que en fait, ça fait très longtemps, ça fait plusieurs années que Vladimir Poutine se mêle des conflits mal éteints des Balkans. Il soutient la Serbie, il soutient les velléités de la partie serbe de Bosnie de se détacher de la Bosnie pour se raccrocher à la Serbie. Alors il n'est pas le seul à faire des intrusions dans le dossier yougoslave. Hein. Il y a aussi la Chine et la Turquie, donc trois puissances révisionnistes qui sont en train d'exciter les nationalismes renaissants, ou en tout cas qui ne se sont jamais éteints dans l'ex-Yougoslavie. Donc là aussi, à terme, potentiellement, il y a un foyer de violence et de nouvelles guerres possibles.
Général Desportes, il y avait hier à l'Élysée un nouveau conseil de défense, le troisième depuis une semaine, pour voir s'il faut prendre de nouvelles mesures, de l'argent, mais aussi des armes dites défensives. Jusqu'où peut aller ce soutien matériel français à l'Ukraine?
Écoutez, il y a deux limites. La première, c'est que l'armée française, hélas, on le sait, a été progressivement détruite pendant 25 ans et que c'est une armée pauvre. Et nous avons à peine pour nous-mêmes les munitions, les pièces de rechange, etc., qui sont nécessaires à notre propre armée. Donc, en termes de volume, il y a une limite très claire à ce qu'on peut envoyer. D'autre part, la deuxième limite, c'est comment faire pour envoyer des armes en Ukraine alors que la maîtrise du ciel est russe, la maîtrise de la mer est russe et que toutes les routes sont encombrées de réfugiés. Donc, il y a quand même deux problèmes techniques qui vont limiter cet envoi d'armes. Je reviens sur la question précédente. Il faut bien noter que les Pays-Baltes sont géographiquement, évidemment, les premières victimes possibles de la future victime possible de M. Poutine, mais rentrer dans les Pays-Baltes qui font partie de l'OTAN, attaquer la Pologne, comme le dit le sous-entendait d'ailleurs tout à l'heure Isabelle Lasserre, c'est rentrer dans un autre combat. Parce qu'on entre là, dans la première confrontation chaude entre deux alliances nucléaires, qui sont d'un côté l'OTAN, puisque les trois Pays-Baltes font partie de l'OTAN et sont protégés théoriquement par le feu nucléaire américain, et la Russie qui est nucléaire. Et donc là, il y a un gouffre entre les deux. À partir du moment, et d'ailleurs Joe Biden l'a dit, je défendrai pied à pied le premier centimètre carré dans lequel vous entrerez. Alors la vérité, on ne sait pas. Mais en tout cas, la guerre changerait totalement de nature et là, on pourrait aller clairement vers une apocalypse mondiale. Il faut donc arrêter la guerre avant.
Et je vous parlais à l'instant de la suggestion, la proposition russe d'ouvrir des négociations en terrain biélorusse. Et bien à l'instant, le président ukrainien Zelensky dit rester ouvert à des discussions avec la Russie, mais, précise-t-il aussitôt, pas sur le sol biélorusse. Des contacts entre Emmanuel Macron et Zelensky, ils sont quasi quotidiens. Isabelle Lasserre, qu'est-ce qu'on sait de la nature de ces entretiens ?
Alors, ils sont quotidiens, même parfois...
plusieurs fois par jour.
Parfois plusieurs fois par jour. Apparemment, ça se passe très bien. Il y a un réel soutien de la France aujourd'hui au président Zelensky. Je crois qu'Emmanuel Macron a été assez impressionné par, même avant le début de l'offensive, hein, par le courage, la force de caractère du président ukrainien, dont il a loué à plusieurs reprises l'extraordinaire sang-froid. Alors, je pense que Emmanuel Macron a souvent essayé pendant assez longtemps, essayé de réchauffer les relations avec Vladimir Poutine et d'arrimer le président russe à l'Europe, alors qu'en fait, il a fait de la Russie depuis 2013 une puissance occidentale, Vladimir Poutine. Là, je crois qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron a changé de registre. Je pense qu'il a vraiment véritablement compris quel était le vrai visage de Vladimir Poutine et qu'il était pour l'instant absolument impossible de négocier avec lui. Donc il s'est vraiment rapproché de Volodymyr Zelensky.
Général Desportes, une exfiltration du président Zelensky et de sa famille, et pourquoi pas par des unités spéciales françaises. Est-ce que cette hypothèse est plausible à plus ou moins long terme ?
Je dirais qu'elle est plausible, mais hier, je crois, le président Zelensky a dit clairement sur une proposition, en refusant une proposition américaine de ce type, moi je ne veux pas d'un taxi, je veux des armes. Et je pense que la force du président Zelensky, c'est de dire justement, je ne partirai pas, je me défendrai. Il ne veut pas jouer les présidents afghans qui quittent leur palais même avant que les talibans soient dans la ville. Il veut rester là. Il joue son rôle de chef de guerre. Il y a des soldats et puis il y a celui qui doit donner la force morale. La force morale est aussi importante que les munitions et les mitrailleuses à la guerre. Et c'est au chef de guerre qui est le président Zelensky de dire tenons. Et s'il lui fuit, il donnera évidemment le plus mauvais exemple. Et je crois qu'il doit à son pays, il doit à sa population, eh bien, de risquer sa vie, de risquer peut-être celle de sa famille pour montrer que l'Ukraine est un peuple européen, est un grand peuple. Que les Ukrainiens sont un grand peuple.
Merci, général Vincent Desportes, d'être venu éclairer nos lanternes ce matin. Ancien directeur de l'école de guerre, professeur de stratégie à Sciences Po et HEC. Merci beaucoup, Isabelle Lasserre.
Merci.
Je signale d'ailleurs à nos auditeurs le titre de votre dernier livre, Macron, Le Disrupteur, paru aux éditions de l'Observatoire, un ouvrage sur la politique étrangère du président Macron. Merci à tous les deux et bonne journée, il est 9h20.